Culture Monde s'offre un pas de côté littéraire et demande aux écrivains leur part de vérité sur le monde.
Julie Gacon.
Nous recevrons l'écrivaine irakienne Inam Kashashi, dont le dernier roman croise les destins de deux femmes originaires de Bagdad, le romancier palestinien Karim Khatan. L'écrivain grec Makis Malafekas, ses polars pulp racontent crûment une Grèce en crise. Enfin, le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy pour Le rêve du jaguar.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, il est 21h, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur l'imaginaire. Une heure pour s'évader grâce au feuilleton, s'émerveiller avec l'instant poésie et plonger dans la lecture du soir.
Le conte de Noël de Charles Dickens.
Traduction de Mademoiselle de Saint-Romain et Monsieur de Goy. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon.
Épisode 3, le second des trois esprits.
Comme le spectre de Marley, son défunt associé, le lui avait annoncé, Scrooge a reçu la visite d'un premier esprit, l'esprit des Noëls passés, qui lui a permis de se voir enfant, puis adolescent et jeune homme. L'esprit lui a montré quelques images heureuses de son passé, mais aussi dévoilé les prémices de son avarice prodigieuse qui lui a fait perdre la jeune femme qu'il aimait et à laquelle il avait promis le mariage. Épuisé par ses émotions, Scrooge retrouve sa chambre et son lit sans trop savoir comment et s'endort profondément. Réveillé au milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse, Scrooge s'assied sur son lit pour recueillir ses pensées. Il n'eut pas besoin qu'on lui dise que l'horloge allait de nouveau sonner une heure. Il sentit de lui-même qu'il reprenait connaissance à point nommé pour se mettre en rapport avec le second messager. Il désirait cette fois affronter bravement l'esprit et n'avait envie ni d'être assailli par surprise, ni de se laisser dominer par une trop vive émotion. Mais s'il s'attendait presque à tout, il n'était par le fait nullement préparé à ce qu'il n'y eût rien. Et c'est pourquoi, quand l'horloge vint à sonner une heure et qu'aucun fantôme ne lui apparut, il fut pris d'un frisson violent et se mit à trembler de tous ses membres. Il demeurait étendu sur son lit, où se réunissaient comme en un point central les rayons d'une lumière intense qui l'éclaira tout entier quand l'horloge annonça l'heure. Il commença à penser que le foyer mystérieux de cette lumière fantastique pourrait être dans la chambre voisine. Il se leva tout doucement, mit ses pantoufles et se glissa sans bruit du côté de la porte.
Oh, entrez. Oh, entrez.
Son salon avait subi une transformation surprenante. Les murs et le plafond étaient richement décorés de guirlandes de feuillage verdoyant. Les feuilles lustrées du hou, du gui et du lierre reflétaient la lumière, comme si on y avait suspendu une infinité de petits miroirs. Dans la cheminée, flambait un feu magnifique. On voyait, entassés sur le plancher, des dindes, des oies, du gibier de toute espèce, des cochons de lait, des jambons, des plum puddings, des barils d'huîtres, des marrons rôtis, des pommes vermeilles, des oranges juteuses, des poires succulentes. Un joyeux géant, superbe à voir, s'étalait à l'aise sur ce lit de repos.
Entrez, entrez. N'ayez pas peur de faire plus ample connaissance avec moi, mon ami. Je suis l'esprit du Noël présent.
Oh. Esprit, conduisez-moi où vous voudrez. Je suis sorti la nuit dernière malgré moi et j'ai reçu une leçon qui commence à porter ses fruits. Ce soir, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit.
Alors, touchez ma robe.
Scrooge obéit et se cramponna à sa robe. Ils se trouvèrent dans les rues de la ville, le matin de Noël. Les façades des maisons paraissaient bien noires, par le contraste qu'elles offraient avec la nappe de neige unie et blanche. Le ciel était sombre.
les rues les plus étroites disparaissaient enveloppées dans un épais brouillard. Cependant, on remarquait partout dehors un air d'allégresse que le plus beau jour et le plus brillant soleil d'été se seraient en vain efforcés d'y répandre. Ils se transportèrent, invisibles, dans les faubourgs de la ville. Une faculté remarquable du spectre était de pouvoir, nonobstant sa taille gigantesque, s'arranger de toute place sans être gêné avec la même grâce, la même majesté surnaturelle. Peut-être était-ce le plaisir qu'éprouvait le bon esprit à faire montre de cette faculté singulière, ou bien encore la tendance de sa nature bienveillante, généreuse, et sa sympathie pour les pauvres qui le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge. Sur le seuil de la porte, l'esprit sourit et s'arrêta pour bénir, en l'aspergeant de sa torche, la demeure de Bob Cratchit. Mistress Cratchit, pauvrement vêtue d'une robe retournée, mais en revanche toute parée de rubans bon marché, mettait le couvert, aidée de Belinda Cratchit, tout aussi enrubannée que sa mère, tandis que maître Pierre Cratchit plongeait une fourchette dans la marmite remplie de pommes de terre et ramenait jusque dans sa bouche les coins de son monstrueux col de chemise. Enfin, pas précisément son col de chemise, car c'était celle de son père. Bob l'avait prêté ce jour-là, en l'honneur de Noël, à son héritier présomptif.
Voici papa qui vient.
Attention la tête !
Bob Cratchit entra. Avec son cache-nez pendant de 3 pieds au moins devant lui, sans compter la frange. Ses habits usés jusqu'à la corde étaient raccommodés et brossés soigneusement pour leur donner un air de fête.
Bonsoir à tous.
Bob portait Tiny Tim, son plus jeune fils, sur ses épaules. Hélas, le pauvre Tiny Tim, il avait une petite béquille et une mécanique en fer pour soutenir ses jambes.
Et comment s'est comporté le petit Tiny Tim ?
Oh, comme un vrai bijou. Obligé qu'il est de demeurer si longtemps assis tout seul, il devient réfléchi et on ne saurait croire toutes les idées qui lui passent par la tête. Il me disait en revenant qu'il espérait avoir été remarqué dans l'église par les fidèles, parce qu'il est estropié, et que les chrétiens doivent aimer, surtout un jour de Noël, à se rappeler celui qui a fait marcher les boiteux et voir les aveugles. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis. Que Dieu nous bénisse.
Joyeux Noël!
Que Dieu bénisse chacun de nous.
Esprit, dites-moi si Tiny Tim vivra.
Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ces images, l'enfant mourra.
Oh non, bon esprit, dites-moi qu'il sera épargné.
Et après, s'il meurt, il diminuera l'excédent de la population.
Scrooge baissa la tête lorsqu'il entendit l'esprit répéter ses propres paroles et il se sentit pénétré de douleur et de repentir.
Homme, si vous avez un cœur d'homme et non de pierre, cessez d'employer ce jargon odieux jusqu'à ce que vous ayez appris ce que c'est que ce superflu et où il se trouve. Voulez-vous donc décider quels hommes doivent vivre, quels hommes doivent mourir ? Il se peut qu'aux yeux de Dieu, vous soyez moins digne de vivre que des millions de créatures semblables à l'enfant de ce pauvre homme.
À Monsieur Scrooge, hein ? Je veux vous proposer un toast à la santé de Monsieur Scrooge, le patron de notre petite fête.
Un beau patron, ma foi. Je voudrais le tenir ici, je lui en servirai un gala de ma façon. Et il faudrait qu'il eût bon appétit pour s'en régaler.
Ma chère, les enfants, le jour de Noël...
Il faut, en effet, que ce soit le jour de Noël, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare, aussi dur et aussi insensible que Monsieur Scrooge. Vous savez s'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que vous, mon pauvre ami.
Ma chère, le jour de Noël.
Je boirai à sa santé, pour l'amour de vous et en l'honneur de ce jour, mais pas pour lui. Je lui souhaite donc une longue vie, joyeux Noël et heureuse année. Allons, les enfants, à la santé de Monsieur Scrooge.
La santé de Monsieur Scrooge.
Très bien.
Scrooge était l'ogre de la famille et la mention de son nom jeta sur cette petite fête un sombre nuage qui ne se dissipa complètement qu'après 5 grandes minutes. Ce n'était pas une belle famille.
Ils n'étaient bien vêtus ni les uns ni les autres. Leurs souliers étaient loin d'être imperméables. Leurs habits n'étaient pas riches. Cependant, ils étaient heureux, reconnaissants, charmés les uns des autres et contents de leur sort. Et ils semblaient de plus en plus heureux encore à la lueur des étincelles que la torche de l'esprit répandait sur eux. Scrooge tenait ses yeux fixés sur eux, et en particulier sur Tiny Tim.
Joyeux Noël !
Joyeux Noël ! Joyeux Noël !
Tout à coup, sans que le spectre eût dit un seul mot pour préparer son compagnon à ce brusque changement, ils se trouvèrent au milieu d'un marais triste, désert, parsemé de monstrueux tas de pierres brutes, comme si c'eût été un cimetière de géants. L'eau s'y répandait partout où elle voulait. Elle n'avait pas d'autre obstacle que la gelée qui la retenait prisonnière. Rien ne poussait en ce triste lieu, si ce n'est de la mousse, des genêts et une herbe chétive et rude. À l'horizon, le soleil couchant avait laissé une traînée de feu d'un rouge ardent qui illumina un instant ce paysage désolé comme le regard étincelant d'un œil sombre.
« Où sommes-nous, esprit ?»«
Nous sommes là où vivent les mineurs, ceux qui travaillent dans les entrailles de la terre. »
L'esprit ne s'arrêta pas en cet endroit, mais ordonna à Scrooge de saisir fortement sa robe et le transporta en passant au-dessus du marais. Scrooge, tournant la tête, vit avec horreur bien loin derrière eux la dernière langue de terre. Ses oreilles furent assourdies par le bruit des flots qui tourbillonnaient, mugissaient avec le fracas du tonnerre et venaient se briser au sein des épouvantables cavernes qu'ils avaient creusées, comme si, dans les accès de sa rage, la mer eût essayé de miner la terre. Bâti sur le triste récif d'un rocher à fleurs d'eau, se dressait un phare solitaire. D'énormes tas de plantes marines s'accumulaient à sa base, et les oiseaux des tempêtes, engendrés par les vents, peut-être comme les algues par les eaux, voltigeaient alentour, s'élevant et s'abaissant comme les vagues qu'ils effleuraient dans leur vol. Et même en ces lieux reculés, les deux hommes chargés de la garde du phare avaient allumé un feu qui jetait un rayon de clarté sur l'épouvantable mer. Joignant leurs mains calleuses par-dessus la table grossière devant laquelle ils étaient assis,
joyeux Noël.
Ils se souhaitaient l'un à l'autre un joyeux Noël en buvant leur grog. Mais le spectre allait toujours au-dessus de la mer sombre et houleuse. Toujours, toujours, jusqu'à ce que dans son vol rapide, il s'abattir sur un vaisseau. Chacun de ses marins fredonnait un chant de Noël, ou rappelait à voix basse à son compagnon quelques Noëls passés, avec les espérances qui s'y rattachent d'un retour heureux au sein de la famille. Tous, à bord, avaient échangé les uns avec les autres ce matin-là, une parole plus bienveillante qu'en aucun autre jour de l'année. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille au gémissement plaintif du vent, d'entendre un rire joyeux. Mais sa surprise devint bien plus grande encore quand il reconnut que cet éclat de rire avait été poussé par son neveu, et qu'il se vit lui-même dans une chambre parfaitement éclairée, chaude, brillante de propreté, avec l'esprit à ses côtés, souriant et jetant sur ce même neveu des regards pleins de douceur et de complaisance. Pendant que le neveu de Scrooge riait de cette manière, la nièce de Scrooge riait d'aussi bon cœur que lui. Leurs amis réunis chez eux n'étaient pas le moins du monde en arrière et riaient également, à gorge déployée.
Oui, ma parole d'honneur, il m'a dit que Noël était une sottise et il le pensait.
Ce n'en est que plus honteux pour lui, Fred.
C'est un drôle de corps, le vieux bonhomme, c'est vrai. Et il pourrait être plus agréable. Mais ses défauts portent en eux leur propre châtiment. Et je n'ai rien à dire contre lui.
Je crois qu'il est très riche, n'est-ce pas, Fred? Au moins, c'est ce que vous m'avez toujours dit.
Qu'importe sa richesse, ma chère amie. Elle ne lui est d'aucune utilité. Il ne s'en sert pour faire du bien à personne, pas même à lui.
Eh bien, je ne peux pas le souffrir.
Moi, je suis plus tolérant que vous. J'en suis seulement peiné pour lui et jamais je ne pourrai lui en vouloir. Quand bien même j'en aurais envie. Car enfin, qui souffre de ses boutades et de sa mauvaise humeur? Lui? Lui seul? Ce que j'en dis, ce n'est pas parce qu'il s'est mis en tête de ne pas nous aimer assez pour venir dîner avec nous. Car après tout, il n'a perdu qu'un méchant dîner.
Vraiment? Eh bien, je pense, moi, qu'il perd un fort bon dîner. Non, mais continuez donc ce que vous alliez nous dire, Fred. Il n'achève jamais ce qu'il a commencé.
J'allais seulement ajouter qu'en nous faisant mauvais visage et en refusant de venir se réjouir avec nous, il perd quelques moments de plaisir qui ne lui auraient pas fait de mal. À coup sûr, il se prive d'une compagnie plus agréable qu'il ne saurait en trouver dans ses propres pensées. Dans son vieux comptoir humide ou au milieu de ses chambres poussiéreuses. Cela n'empêche pas que je compte bien lui offrir chaque année la même chance, que cela lui plaise ou non. Car j'ai pitié de lui. Libre à lui de se moquer de Noël jusqu'à sa mort, mais il ne pourra s'empêcher d'en avoir meilleure opinion, j'en suis sûr, lorsqu'il me verra venir tous les ans, toujours de bonne humeur, lui dire « Oncle Scrooge, comment vous portez-vous ?»
On fit un peu de musique.
Ma chérie. Une chanson.
Car c'était une famille de musiciens qui s'entendaient à merveille à chanter des ariettes et des ritournelles. La nièce de Scrooge chanta un simple petit air. Justement, l'air favori de la jeune fille qui allait autrefois chercher Scrooge à sa pension, comme le fantôme de Noël passé le lui avait rappelé. À ses sons bien connus, tout ce que le spectre lui avait montré alors se présenta de nouveau à son souvenir. Il songea que s'il avait pu souvent entendre cet air, il aurait sans doute cultivé de ses propres mains, pour son bonheur, les douces affections de la vie. Ce qui valait mieux que déguiser la bêche impatiente du fossoyeur qui avait enseveli Jacob Marley. Mais la soirée ne fut pas consacrée tout entière à la musique. On commence d'abord par une partie de Colin Maillard. Oh, le tricheur de Topper. La manière dont le soi-disant aveugle poursuit la petite sœur rondelette au fichu de dentelle est une véritable insulte à la crédulité de la nature humaine. Il ne veut attraper personne d'autre. Lorsqu'il l'attrape à la fin, quand il est parvenu à la coincer dans un coin d'où elle ne peut plus sortir, sa conduite alors devient vraiment abominable. Car sous prétexte qu'il ne sait pas qui c'est, il faut qu'il touche sa coiffure. Sous prétexte de s'assurer de son identité, il se permet de manier certaines chaînes passées autour de son cou. Le vilain monstre.
C'est Marie.
Oui, c'est ça, c'est moi.
La nièce de Scrooge était demeurée dans un petit coin de la salle. Le fantôme et Scrooge se tenaient debout derrière elle. Elle lança une partie de « Où, quand et comment ?» Jeu auquel elle était fort habile. Et à la joie secrète du neveu de Scrooge, elle battait tout le monde à plat de couture. Tout le monde jouait, jusqu'à Scrooge lui-même, qui, oubliant tout à fait qu'on ne pouvait entendre sa voix, criait tout haut les mots qu'on donnait à deviner. Et il tombait juste, fort souvent, car l'aiguille la plus pointue n'est pas plus fine ni plus déliée que l'esprit de Scrooge. Le spectre prenait plaisir à le voir dans ses dispositions et il le regardait d'un air rempli de bienveillance. Il voulut lui donner le signal du départ.
Oh non, non! Voici un nouveau jeu! Une demi-heure, esprit! Seulement une demi-heure!
Ça y est, je l'ai.
C'était le jeu appelé « Oui et non ». Le neveu de Scrooge devait penser à quelque chose et les autres cherchaient à deviner ce à quoi il pensait. Il ne répondait à toutes leurs questions que par « oui » et par « non ». Le feu roulant d'interrogations lui arracha successivement une foule d'aveux. Qu'il pensait à un animal, que c'était un animal vivant, un animal désagréable, un animal sauvage, un animal qui grondait et qui grognait quelquefois, qui d'autres fois parlait, qui habitait Londres, qui se promenait dans les rues, qu'on ne montrait pas pour de l'argent, qui n'était mené en laisse par personne, qui ne vivait pas dans une ménagerie, qu'on ne tuait jamais à l'abattoir et qui n'était ni un cheval, ni un âne, ni une vache, ni un taureau, ni un tigre, ni un chien, ni un cochon, ni un chat, ni un ours.
J'ai trouvé. Je le tiens, Fred, je sais ce que c'est.
Et qu'est-ce que c'est ?
C'est votre oncle Scrooge.
Eh bien oui. Oh. Et il a singulièrement contribué à nous divertir. Et nous serions de véritables ingrats si nous ne buvions pas à sa santé. Voici justement que nous tenons à la main chacun un verre de punch. Ainsi donc, à l'oncle Scrooge.
À l'oncle Scrooge.
Un joyeux Noël et une bonne année au vieillard. Peu importe ce qu'il est. Il n'accepterait pas ce souhait de ma bouche, mais il l'aura néanmoins. À l'oncle Scrooge.
L'oncle Scrooge s'était si bien laissé gagner gagné par l'hilarité générale, il se sentait le cœur si léger qu'il aurait prononcé un discours de remerciement que personne n'eût entendu si le spectre lui en avait donné le temps. Mais la scène entière disparut comme le neveu prononçait la dernière parole de son toast, et déjà Scrooge et l'esprit avaient repris le cours de leur voyage. Ils virent beaucoup de pays, allèrent fort loin, et visitèrent un grand nombre de demeures, et toujours avec d'heureux résultats. L'esprit se tenait auprès du lit des malades, et ils oubliaient leurs maux sur la terre étrangère. Même l'exilé se croyait pour un moment transporté au sein de sa patrie. Dans les maisons de charité, les hôpitaux, les prisons, dans tous ces refuges de la misère, où l'homme vain et orgueilleux n'avait pu abuser de sa petite autorité pour en interdire l'entrée et en barrer la porte à l'esprit, il laissait sa bénédiction et enseignait à Scrooge ses préceptes charitables. Ce fut là une longue nuit, si on veut bien admettre que toutes ces choses s'accomplirent seulement en une nuit. Mais Scrooge en douta, parce qu'il lui semblait que plusieurs fêtes de Noël avaient été condensées dans l'espace de temps qu'ils passèrent ensemble. Tandis que Scrooge n'éprouvait aucune modification dans sa forme extérieure, le fantôme devenait plus vieux, visiblement plus vieux. Scrooge avait remarqué ce changement, mais il n'en dit pas un mot, jusqu'à ce qu'il s'aperçût que les cheveux du fantôme avaient complètement blanchi.
La vie des esprits est-elle donc si courte?
Ma vie sur ce globe est très courte, en effet. Elle finit cette nuit.
Cette nuit?
Ce soir. L'heure approche.
Pardonnez-moi l'indiscrétion de ma demande, mais je vois quelque chose d'étrange et qui ne vous appartient pas sortir de dessous votre robe. Est-ce un pied ou une griffe?
Ce pourrait être une griffe, à en juger par la chair qui est au-dessus. Regardez.
Des plis de sa robe, il dégagea deux enfants, deux créatures misérables, abjectes, effrayantes, hideuses, repoussantes, qui s'agenouillèrent à ses pieds et se cramponnèrent à son vêtement.
Oh, homme, regarde, regarde à tes pieds.
C'était un garçon et une fille, jaunes, maigres, couverts de haillons, au visage renfrogné, féroce. Une jeunesse gracieuse aurait dû remplir leurs joues et répandre sur leur teint ses plus fraîches couleurs. Au lieu de cela, une main flétrie et desséchée comme celle du temps les avait ridées, amaigries, décolorées. Scrooge recula, pâle de terreur.
Esprit, est-ce que ce sont vos enfants?
Ce sont les enfants des hommes, et ils s'attachent à moi pour accuser leur père. Celui-là est l'ignorance, celle-ci la misère. Gardez-vous de l'un et de l'autre, et de toute leur descendance, mais surtout du premier. Car sur son front, je vois écrit « Condamnation ».
N'ont-ils donc aucun refuge? Aucune ressource?
Mais si. Vous l'avez rappelé vous-même aux deux hommes qui vous demandaient la charité pour les pauvres. N'y a-t-il pas des prisons? N'y a-t-il pas des maisons de force?
Scrooge chercha du regard le spectre et ne le vit plus. Il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley. Et, levant les yeux, il aperçut un fantôme à l'aspect solennel, drapé dans une robe à capuchon et qui venait à lui glissant sur la terre comme une vapeur.
C'était Le Conte de Noël de Charles Dickens. Traduction de Mademoiselle de Saint-Romain et Monsieur de Goy. Épisode 3, Le Second des Trois Esprits. Avec Serge Avédiquian, Alain Rimoux, Jean-Baptiste Anoumont, Robinson Stévenin, Cécile Bournet, Ernest, Émile et Adèle Koller, Emmanuel Noblet, Florence Alérac. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Adaptation et réalisation, Sophie-Aude Picon.
Vous écoutez France Culture.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balance, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra.
Vous êtes bien sur France Culture.
Vous avez fait une grosse sieste cette année, non ? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture, saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France. La fiction continue sur France Culture avec l'Instant Poésie.
À présent, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un poème d'une toute jeune poétesse qui s'appelle Sabine Sicot. C'est un poème qui date de 1926. Le poème s'appelle « Vigne vierge d'automne ». Il va vous être lu par Nel Lavant.
Vous laissez tomber vos mains rouges, vigne vierge, vous les laissez tomber, comme si tout le sang du monde était sur elles. À leur frisson, toute la balustrade bouge, tout le mur saigne. Ô vigne vierge, tout le ciel est imbibé d'une même lumière rouge. C'est comme un tremblement d'ailes rouges qui tombent, d'ailes d'oiseaux des îles, d'ailes qui saignent. C'est la fin d'un règne, ou quelque chose de plus simple, infiniment. Ce sont les pieds palmés de hauts flamands, ou de fragiles pattes de colombes, qui marchent dans l'allée. Où vont-elles, si rouges? Leurs traces étoilées rejoignent l'autre vigne où l'on vendange. Si rouge, est-ce déjà le sang des cuves pleines? Ah, simplement la fête des vendanges. Simplement, n'est-ce pas? Et pourtant, que vos mains sont tremblantes, leurs veines se rompent une à une, tant de sang, et cette odeur si fade, étrange. Ces mains qui tombent d'un air las, ô vigne vierge, d'un air las et comme absent. Ces mains abandonnées. Lady Macbeth n'eut-elle pas ce geste, après avoir frotté la tache si longtemps? Main qui se crispe, main qui reste, en lambeaux rouges sur octobre palpitant. Dites, oh, dites, chaque année, êtes-vous les mains meurtrières de l'automne? Ou chaque année, sans rien qui s'en émeuve ni personne, des mains assassinées, qui flottent au fil rouge de l'automne?
Vigne vierge d'automne. Sabine Sicot, c'est une rencontre essentielle pour moi. C'est une amie qui vient de Villeneuve-sur-Lot, qui savait que j'appréciais beaucoup la poésie, et qui me l'a fait connaître à travers un recueil. Il faut dire que c'est une histoire tragique. C'est une jeune poétesse qui est morte à 15 ans. Et pourtant, à 15 ans, elle a une œuvre merveilleuse, d'une maturité incroyable, et sa courte vie se passe ainsi. Elle habite dans un domaine qui s'appelle la solitude et elle écrit en vers libre dans un exercice d'admiration de la nature, tout comme Francis Vielley-Griffin, mais avec plus de jeunesse, de candeur, et en même temps, là-dessus plane quand même une tragédie, ce qui apparaît dans ce poème « Vigne vierge d'automne », parce que elle va, à un moment donné, dans sa jeunesse, être blessée par une ronce. Cette blessure va s'infecter. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques et elle est morte. Ouais, comme dirait Bobby Lapointe. Mais elle est morte dans d'affreuses souffrances en continuant à écrire, à résister contre la douleur, à la mettre en vers, à la mettre en poésie, à la transcender par la poésie, à s'opposer même à Anna de Noailles qui avait la prétention de prôner l'honneur de souffrir. Elle fait un poème en contrepoint des poèmes de Noailles et elle est géniale, elle est formidable. Elle est aussi belle que Arthur Rimbaud. Et elle meurt pratiquement de la même chose, du manque d'antibiotiques, de pénicilline. Et voilà, elle est gracieuse, elle est... Vous laissez tomber vos mains rouges, vigne vierge.
Vous les laissez tomber, comme si tout le sang du monde était sur elles. À leur frisson, toute la balustrade bouge. Tout le mur saigne. Ô vigne vierge, tout le ciel est imbibé d'une même lumière rouge.
Si rouge, est-ce déjà le sang des cuves pleines? Ah, simplement la fête des vendanges, simplement, n'est-ce pas?
Et pourtant, que vos mains sont tremblantes, leurs veines se rompent une à une. Tant de sang.
Elle n'est pas encore malade à ce moment-là. Elle n'est pas encore en danger de mort, mais on sent cette menace qui plane sur sa vie, cette grande inquiétude. Il faut dire qu'elle est née en 1913, c'est-à-dire un an avant la Première Guerre mondiale, et les âmes sensibles sont en connexion, en communication avec ces événements tragiques de l'humanité. C'est une poétesse qui a été rééditée récemment dans une petite édition de poésie, et je suis ravi chaque fois de la dire, pour le plaisir. Moi, j'en dis pour moi-même des poèmes, souvent, mais celle-ci, je l'ai dit quelquefois en public, et je sais à quel point sa poésie, elle retentit dans les sonorités, dans le sens, dans les couleurs, dans l'âme qui se niche dedans. Voilà pourquoi je l'aime.
C'était l'Instant Poésie de Denis Lavant, réalisé par Sophie Haute-Picon. À retrouver sur l'application Radio France, franceculture.fr et sur l'Instagram de France Culture, avec chaque soir une illustration originale.
Vous écoutez France Culture, dernière partie de votre rendez-vous avec la fiction. Du lundi au vendredi, 20 minutes dédiées à la lecture sous toutes ses formes. Pages arrachées, lecture simple ou musicale. Vous y entendrez des textes variés, portés par des grandes voix de comédiens et d'écrivains. Les lectures du soir alterneront entre archives et création de nouvelles formes. Tout de suite, lecture du soir.
Au pays de Jane Bowles, un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva, 3e épisode, La mer.
À Tanger, Amanda questionne Paul Bowles, époux de Jane Bowles, écrivain également, morte en 1973 et qu'elle admire par-dessus tout. Amanda rencontre aussi Florence et Isabelle Géroffi, libraires à Tanger et amies des Bowles. Elle cherche à savoir qui était vraiment Shérifa, l'amante de Jane qui partagea les dernières années de sa vie et devint aussi un personnage de ses textes, mais qui, selon certains, poussa Jane vers la folie et la mort. Amanda s'interroge aussi sur cette fascination d'Irène pour ces êtres étranges et instables qui attiraient aussi terriblement Jane. Mais avec Shérifa, Jane ne rejouait-elle pas, sous un autre registre, quelque chose qui appartenait à sa relation, à sa propre mère?
Si vous obtenez ce que vous voulez, elle restera comme ça. Laissez-la partir. Si vous l'aimez, laissez-la s'en aller. Ne l'arrêtez pas. Vous l'utilisez. Vous avez besoin de Molly. Vous ne l'aimez pas, vous l'utilisez.
À l'époque où Irène avait acheté In the Summer House, l'unique pièce de Jane Bowles, qui n'était pas encore traduite en français, on vivait ensemble dans mon appartement. Après la lecture de la pièce de Jane, on avait parlé pour la première fois de faire ce voyage à Tanger. Et à Malaga.
Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez rien de moi, pas plus que de Molly. Vous ne saurez jamais rien. Quand elle s'est mariée, elle était désespérée. Elle pleurait comme un bébé et me suppliait de rester. Mais vous voulez me l'arracher à moi, sa mère. Elle m'aime davantage que n'importe qui au monde. Elle a besoin de moi. Et dans son cœur... elle est comme une enfant.
Si vous obtenez ce que vous voulez, elle restera comme ça. Laissez-la partir. Si vous l'aimez, laissez-la s'en aller. Ne l'arrêtez pas.
Je l'ai fait seule, finalement, ce voyage, après qu'Irène eut quitté l'appartement, ou que je lui ai demandé de le faire. Je ne sais plus. On n'a jamais très bien su, ni elle, ni moi. Ce voyage, je l'ai fait pour elle, pour moi. J'ai quitté Paris pour Tanger à Noël, en 1995, m'arrêtant à Malaga. Il pleuvait sur le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique cette année-là. Une pluie sauvage, forte, qui vous assommait du matin au soir. Tanger était brouillé, flou et froid. Arrivé à Tanger, je trouvais auprès de Paul Bowles et de tous ceux que je rencontrais pour me parler de Jane, le souvenir malaisant de Sherifa, fantôme toxique collé à sa mémoire, inséparable des dernières années de Jane au Maroc. Certains disaient qu'elle avait envoûté Jane, d'autres que Jane n'avait pas besoin de ça. À Tanger, on l'appelait Haya, ce qui signifie sorcière ou cobra. Je pensais dans un premier temps la rencontrer. J'avais peur d'elle. Des femmes qui lui ressemblaient, j'en avais vu au marché du Grand Soko, dans la Médina. Des femmes de la campagne tangéroise, venues vendre des herbes et des graines. Des femmes grandes, solides, qui posaient sur moi un regard bref et condescendant, puis continuaient à parler entre elles, dans cette langue que je ne comprends pas. Elles me prenaient pour une touriste, avec mon appareil photo et ma solitude. Je ne les intéressais pas. Je ne rencontrais pas Sherifa. Ce que j'avais compris à travers mes lectures, mes discussions avec Irène, ce que j'ai vérifié à travers mes rencontres à Tanger, c'est que du temps de Jane, Sherifa rêvait d'occuper toute la place auprès d'elle, de prendre l'amour de Jane, le pouvoir sur Jane, de faire disparaître Paul de la vie de Jane. Comme si elle avait pu lui arracher une partie d'elle-même. Sans Paul, Jane n'existait pas, même du temps de Sherifa. Jane resta toute sa vie officiellement Madame Bowles. Il lui était impossible d'envisager qu'elle ne le fût plus. Son mariage avec Paul était un mariage de convention, dès la fin de leur première année de vie commune. À travers ce lien conjugal qui sauvait les apparences, Jane ne faisait-elle pas allégeance à sa propre mère ? Jane ne le dit pas, ne l'écrit pas. Quoi qu'il en soit, c'était un mariage de grand amour. Ça, on le lit dans les lettres de Jane à Paul. Ce mariage de grand amour dura toute la vie de Jane, et bien après encore pour Paul. À Tanger, M. Bowles entretenait Mme Bowles, qui entretenait Sherifa avec l'argent de Paul ou celui de sa mère, ou avec les deux.
Oui, mais c'est fou parce que elle prenait beaucoup, beaucoup plus pendant la vie de Jane que ce qu'elle aurait pris après sa mort. Alors, c'est pour ça que c'est difficile à croire. Mais elle faisait toutes sortes de choses assez sinistres. Elle restait à côté de Jane pendant la nuit en train de chuchoter, en train de lui dire « Kirsten Fluss, j'ai besoin d'argent, je dois avoir de l'argent ». Mais ce même jour, Jane lui avait donné, parce que chaque matin, Jane se levait et disait « Je dois donner de l'argent à Sherifa ». Et moi, si j'entendais, je lui dis « Mais tu as donné 50 000 hier, qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « Scoot, ne parle pas ».
Ce qui nous a toujours frappé avec Irène, et bien avant que je débarque à l'hôtel Continental, à Tanger, aux portes de la Médina, dans cet hôtel années 40, resté intact, qui me racontait sans un mot la jeunesse des Bowles, c'est que ce soit Paul qui ait présenté Sherifa à Jane. Sherifa, que Jane aima passionnément, mais qui au cours des ans lui était devenu un poison, aussi fort que les sachets de Tseher qu'elle cachait dans ses plantes. Irène disait que Paul avait une grande part de responsabilité dans la dépression de Jane. Jane, avions-nous conclu avec Irène, ne tombait amoureuse que de personnes qui la tyrannisaient, alimentaient ses délires et ses obsessions, sa folie. Car pour Jane, nous l'avions compris très tôt, il y avait sa mère. Et tout ce que cette mère avait de monstrueux, comme toutes les mères, et davantage. Sherifa et Paul étaient pour Jane des figures maternelles. À cette époque, Irène et moi étions en conflit avec nos mères. Et nous jubilions en lisant « In the Summer House », la pièce de Jane, où trois couples mère-fille, aux mères atroces, sont dépeints de manière impitoyable.
Tu vois, avec ou sans toi, il a décidé de partir. N'aie pas l'air effrayée, Molly. Je ne vais pas te permettre de partir. Tu viens avec moi, avec ta mère, c'est ta place. Je n'aurais jamais dû te laisser te marier. Je n'aurais jamais dû te quitter et je ne te laisserai plus jamais, chérie. Tu es à moi, mon unique, mon propre sang. Tu es la seule chose dont je sois certaine en ce monde.
Les difficultés qu'elle avait avec sa mère l'ont poussée à boire. Et c'est l'alcool qui lui a donné le haute tension du sang. Et c'est ça qui a provoqué son...
Son accident.
Oui. Sa mère lui tenait beaucoup trop fort. Parce que c'était son unique enfant. Alors, elle lui disait, tu es ma vie. Je n'ai pas d'autre vie que toi. Elle lui écrivait tous les jours, même quand on était au Guatemala, au Costa Rica, des lettres de sa mère, et Jane ne les lisait même pas. Quand elle recevait une lettre de sa mère, elle les jetait par terre et le piétinait. Oui. Oui, oui, je lui ai dit, oh, Jane, c'est honteux. C'est ta mère. Oui, je sais bien que c'est ma mère. Mais tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Ce n'est pas ta mère.
À Paris, quand Irène me parlait de sa mère, je ne savais pas si elle l'aimait ou la détestait, ou les deux. Elle ne disait pas « ma mère », elle disait « ma maman », elle qui était si garçon. Et ce « ma maman » correspondait si peu à cette haute femme maigre, silencieuse et sévère que j'avais vue à la montagne une fois dans la maison d'enfance d'Irène. À Tanger, pendant la maladie de Jane, Paul écrivait de fausses lettres rassurantes à la mère de Jane qu'elle signait afin que sa mère, Madame Hower, ne puisse pas deviner son état. Avec un océan de distance, les lettres de sa mère torturaient Jane qui ne les lisait pas. Jane portait sa mère à l'intérieur d'elle. La mère intérieure de Jane se débattait, ne la laissait pas en paix. Elle hurlait au-dedans de Jane, comme nos mères peut-être, à l'intérieur de chacune d'entre nous. Et quand Jane rencontrait un être qui l'envahissait comme sa mère le faisait, elle le reconnaissait entre tous, sans le connaître. Elle s'attachait à lui, à elle, sans qu'il pût en être autrement. Elle se laissait habiter par l'autre, dévorer, posséder, envahir. Elle était habituée à ça. Elle avait été élevée comme ça.
Demain, quand Lionel sera parti, je viendrai faire tes bagages. Est-ce que tu as aimé le papier avec la danseuse dessus?
J'ai ta lettre avec moi.
Il y en a d'autres à la maison. Un toréador avec une culotte couleur de satin pêche et un perroquet avec de vraies plumes. Et tu les as vus, chérie, ces gros perroquets. N'est-ce pas?
Quoi?
Comment peux-tu supporter d'être ici, là, dans cet endroit public affreux? Après notre vie ensemble, dans notre maison au bord de l'océan.
J'avais l'habitude d'y retourner et de regarder le jardin par-dessus le mur. Puis les gens sont venus y vivre et je n'y suis plus allée. Mais après un moment...
Non, je ferai tout pour toi, ma chérie. Tu auras tout ce que tu veux.
Après un moment, ça allait mieux. Je n'en faisais plus. C'est comme être ici.
Quoi, Molly? Qu'est-ce qui était comme être ici?
Après un moment, je pouvais m'asseoir dans cette baraque et si je voulais, je pouvais imaginer que j'étais là-bas, dans ce jardin, dans le cabanon d'été.
C'est fini, Molly. C'est fini maintenant. Terminé. J'ai une merveilleuse surprise pour toi, ma chérie. Tu devines?
Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
J'ai commandé une terrasse et un treillis et je sais où je peux trouver de la vigne. Plein de vignes rampantes, lourdes, avec des feuilles. Juste comme celle... Non, je sais, je n'ai pas l'air bien, j'ai l'air malade. Mais je ne le suis pas, je ne suis pas malade.
Tu n'as pas l'air malade, tu as l'air différente.
Il y a trois personnes ici. Mère, ma mère, moi-même et un monstre. On ne peut pas traiter avec le monstre. Ce n'est pas de ma faute. Même si je pouvais expliquer ce qui manque, je serais toujours là où j'en suis. Pas mieux. Il n'y a pas de compte à régler. Juste les comptes de la décence. Decency.
Ma mère, c'était les garçons qu'elle dévorait. Ses filles, elle les chassait à force de vouloir les retenir. Je l'avais détestée, plus maintenant. Ma mère n'aimait pas Irène. Elle disait en parlant d'elle, cette fille. Elle trouvait qu'elle se tenait mal à table et qu'elle mangeait trop, comme un glouton. Et c'était vrai. Irène était maigre, mais elle mangeait beaucoup et très vite. Et moi, je savais pourquoi. Ce qui est curieux, c'est que Paul disait aussi que Jane mangeait trop et comme un glouton. Et moi, j'étais certaine que c'était à cause de sa mère. Et là, passant devant la petite cheminée de plâtre, au ras du sol de la salle à manger de Paul Bowles, j'imaginais très bien, devant le feu, Jane manger voracement une hanche de mouton avec les doigts, comme me l'avait raconté Paul, et aller serrer la main de visiteurs anglais en leur disant en riant « J'ai un côté spirituel, vous savez !» La nourriture, c'est toujours à cause des mères. Le père de Jane Bowles, inexistant, mort jeune quand Jane était enfant. Jane avait été élevée dans un matriarcat solide qui ressemblait à celui qu'elle retrouvait auprès de Shérifa et des amis de Shérifa. Paul racontait qu'il y avait eu à un moment donné jusqu'à 7 femmes marocaines chez Jane, qu'elle ne savait pas dire non à toutes ces femmes, qu'elle ne pouvait pas. Shérifa régnait sur l'appartement de Jane et sur les femmes qui y habitaient. Jane avait tellement besoin des autres pour se sentir exister. Elle ne pouvait pas être seule. Elle vivait au sein de groupes dont elle était le centre. Shérifa et Paul, chacun à leur manière, lui offraient cela. Elle était le point d'attraction des groupes d'amis constitués autour d'eux et elle aimait ça. Une prima donna, disait d'elle Olivier Smith, l'un de ses amis.
Elle était souvent difficile. C'était une prima donna qui voulait que les choses soient faites à sa manière. Mais c'était aussi une femme facile à vivre et tout à fait adorable. Elle pouvait être divinement charmante et devenir soudain difficile. Je lui disais, tu joues un jeu dangereux, un jour tu vas vraiment devenir cinglée.
Une prima donna qui n'en pouvait plus de l'être, car ce statut d'enfant chéri et adulé, qu'elle recherchait et fuyait à la fois, elle savait bien d'où ça venait. C'est ça aussi qui l'a tuée, l'a forcée à l'excès.
Quelquefois, je suis envahie par le plus étrange des sentiments en ce qui te concerne. Et ça m'effraie. J'ai l'impression que tu complotes quelque chose, surtout quand tu es dans ce cabanon. Je crois que ce sont tes cheveux noirs qui me donnent cette impression. À chaque fois que je pense à une femme qui devient hystérique, je l'imagine avec des cheveux noirs. Jamais blond ou roux. Je sais que ce que je dis n'a aucune réalité scientifique, c'est très personnel. On dit que les femmes rousses peuvent devenir folles, mais moi je n'ai jamais vu les choses de cette façon, et toi?
Moi je n'imagine jamais des femmes devenir folles.
Pourquoi pas? Elles deviennent tout le temps folles. Elles dépassent les limites. Quelquefois je m'imagine des scènes où elles deviennent diaboliques comme des louves. Je ne choisis pas, mais je fais toujours la même chose.
Je n'ai jamais vu de femme folle.
Et d'autre part, quelquefois, je me réveille la nuit avec un étrange sentiment d'isolement. Comme si je tombais d'une falaise et que j'atterrissais à des kilomètres de tout ce qui est proche de moi. Même les rancœurs et mon chagrin ne semblent plus m'appartenir. Plus rien ne m'appartient, comme si une ombre passait sur ma vie et la rendait obscure. J'essaie de répéter mon nom à voix haute, mais ça n'arrange pas les choses. Quand je me sens comme ça, je m'enroule dans ma couverture et je descends dans la cuisine. J'ouvre le compartiment à glace du réfrigérateur, je prends de l'eau gazeuse, je m'assieds à la table avec la lumière allumée et peu à peu, je me sens bien de nouveau. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que chacun d'entre nous doit se confronter avec une ombre ou deux en vieillissant. Si on trouve quelque chose à faire quand cette ombre passe, elle passe assez vite. Il ne laisse pratiquement pas de traces dans nos vies quotidiennes.
C'était « Au pays de Jane Bowles », un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva. Avec Amalia Escriva, Chloé Baker, Edith Scob, Leslie Coudray, Olivier Martineau, Christophe Pellet, Geneviève Crouzet et la voix de Paul Bowles. Équipe de réalisation, Véronique Amiot, Jean-Michel Després, Guy Peramor, Jacques Taroni.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Alexandre, je donnerai toute ma vie pour une cendre, rien qu'une cendre de ta Lucky. Alexandre, tu es ma Californie, tes mots tendres nage dans mon bikini. T'es mon blasphème, ma plus belle insomnie. Mais te dire je t'aime, je sais, mais t'interdis. Ta peau est trop dure. Tu es mon Dieu. Alexandre, à tout à toi je dis oui, car à tout prendre je préfère l'enfer au paradis. Alexandre, fais de moi ton Alexandrie, tu verras je suis tendre, tendre comme la Californie.
Vous êtes bien sur France Culture.
Radio France fête ses 50 ans. 50 ans d'émotions partagées.
Bonjour à vous, il est 6h30.
Charlie, nous sommes tous Charlie. Nous sommes tous Charlie.
Et une deuxième explosion en direction du Bataclan. Où se déroule, vous le savez, cette prise d'otage.
C'est maintenant qu'il faut vivre les choses à fond. Maintenant qu'il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Donc je profite de ce moment pour vous dire merci à vous tous, à l'orchestre et surtout à tous ceux qui ont un grand cœur. Merci beaucoup.
8, 7, 6, 5, 4, 3.
Déconfinement, espérant qu'il n'y a plus de Covid, on lève tous le masque. C'est beau. C'est un message d'espoir en fait, tu vois. Mais ça ira mieux.
On a encore dépassé le million de personnes aujourd'hui.
Je commence le solo qui est sous un tapis de cordes. Et là, Kurt Masur arrête l'orchestre et il me dit je t'aime.
Faut pas déconner, déconner, né pour des cons, alors qu'on est des...
Les hectomètres pour Cassandre Beaugrand qui est entré dans...